Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast non plus bimensuel mais désormais mensuel sur les sorties cinéma et plateforme. Merci à tous de nous écouter pour ce nouvel épisode, premier épisode donc de la saison 2024, après bien sûr notre bilan de l'année 2023. Aujourd'hui donc autour de la table, nous avons François, tiens.
Bonjour. Hello. François.
Bonjour, bonjour.
François, donc comme le veut la tradition, la douloureuse tradition que nous reprenons dès aujourd'hui, aurais-tu une recommandation culturelle à nous partager ?
Mais bien sûr, mais c'est pas douloureux pour moi, j'aime bien trouver des petites recos culturelles.
Mais ça c'est parce que toi tu fais des choses de ta vie.
D'accord, on va dire ça.
Moi je viens juste de refinir mon rewatch de BoJack Horseman pour la énième fois.
Ça peut compter comme une reco culturelle.
Elle l'a déjà recommandé 5 fois.
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque fois elle le fait, c'est un véritable problème. Ma reco culturelle pour les Parisiens, désolé pour nos auditeurs de province, il y a une très belle exposition en ce moment à la Fondation Louis Vuitton qui est consacrée au peintre américain Mark Rothko, qui est un peintre abstrait, si on peut le dire. Si vous aimez les grands carrés de couleurs, c'est intéressant, mais en fait, c'est intéressant d'aller le voir, parce que justement, ce genre de peinture, qui va être pas monochromatique, mais avec peu de couleurs, ou alors avec des grands aplats de couleurs, en photographie, ça rend rien, en fait. Donc si vous en avez déjà vu sur Internet, ça n'a pas dû vous faire un effet incroyable, mais par contre, quand vous le voyez en vrai, et que vous vous mettez dans un beau cadre, avec une belle lumière bien tamisée, que vous vous mettez à 40 cm de la peinture, vous avez l'impression de rentrer dans la porte des étoiles. Et donc, c'est vraiment très impressionnant. En plus, la Fondation Louis Vuitton, c'est un très beau lieu. Certes privé, mais en tout cas, qui a une architecture assez... C'est monumental, qui est intéressante à voir même en soi, si vous y êtes jamais allé. Et également, il y a un truc qui est très bien dans leurs expositions, c'est que sur chaque étage, il y a des micro-visites guidées qui sont organisées pour tout le monde. Donc vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui vous explique voilà les peintures, à quoi ça correspond, où en était l'artiste à ce moment-là de son œuvre. Et donc voilà, grosse recommandation, donc l'exposition Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton.
Que je plus sois, parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme Pierre Soulages, que moi je connais bien du coup en tant que Montpelliéraine d'origine. C'est vraiment un artiste qui, à travers la couleur, va en réalité travailler la lumière, ce que, comme tu dis, enfin, ne peut pas être traduit par une photographie, par une impression. Il faut vraiment être face à la toile pour se rendre compte de la richesse, des nuances, de la manière dont la peinture va capter, accrocher la lumière. Donc oui, je plus sois tout à fait cette recommandation. Je me tourne à présent vers Nam. Bonjour Nam.
Nam. Je m'applaudis aussi.
Très bien, très bien.
Jamais si bien servi que par soi-même.
Exactement. Et quelle serait pour toi ta recommandation culturelle de ce mois-ci ?
Alors moi, ma recommandation, c'est la bande dessinée Human Target de Tom King et Greg Smallwood. Tom King, qui est un peu un auteur phare de chez DC Comics en ce moment, parce qu'il n'arrête pas de sortir plein de séries, et notamment des séries courtes. Alors courtes, c'est 12 chapitres, donc c'est quand même relativement court. Et il va utiliser pas mal de... des personnages qui sont plus trop utilisés. Et donc cette BD, le personnage c'est Christopher Chance, donc la Human Target, donc une cible vivante. Son but est, en fait, c'est une doublure pour personnalité qui pourrait se faire assassiner. C'est un maître du déguisement, voilà. Il est un peu son cheveu un peu grisonnant sur les côtés fait penser à un certain James Bond, son smoking aussi. Il y a une inspiration très James Bond dans cette BD, avec un côté très pop années 70, dans les couleurs et dans les dessins. Et en fait, au début de l'histoire, il est la doublure pour un certain Lex Luthor. Et donc il y a une tentative d'assassinat sur Lex Luthor qui du coup rate, parce que c'est lui qu'en est la cible. Il se fait empoisonner, il sait qu'il a une semaine ou 12 jours à vivre, je sais plus. Je crois que c'est 12 jours, parce que 12 chapitres, ça me semble logique. Et donc, pour les 12 jours qui lui restent, il va essayer de découvrir qui l'a tué. Et il s'avère que tous les indices pointent vers la direction de la Justice League of America. Donc pas celle de Superman, Batman, mais la Justice League B, on va dire. Donc voilà.
Celle qu'on a vue dans Black Adam, non ? C'est pas ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc voilà, je vous recommande, c'est très très bien, c'est très bien écrit. Et voilà.
Merci beaucoup, Nam. Notre dernier participant, Justin.
Salut.
Justin, est-ce que tu as toi aussi une recommandation culturelle à nous proposer.
Tout à fait, donc j'ai une reco culturelle. Alors c'est un peu un retour en enfance pour moi, parce que quand j'étais petit, je regardais le Club Dorothée, et dans le Club Dorothée, il y avait un dessin animé qui s'appelait Juliette, je t'aime, qui était adapté d'un manga de Rumiko Takahashi. Donc moi j'aimais beaucoup ce dessin animé quand j'étais petit, mais j'avais jamais fait l'effort d'aller lire le manga original. Donc là je suis en train de le lire en ce moment, et donc c'est super bien. Donc alors pour ceux qui ne regardaient pas le Club Dorothée, donc c'était le postulat, c'est en fait on a Godai, qui est un jeune étudiant un peu loser, un peu fauché, donc qui habite dans une pension avec donc d'autres colocataires qui sont un petit peu turbulents, un peu fêtards, et donc il a du mal un peu à poursuivre ses études. Et il se trouve qu'il y a une nouvelle gardienne qui va s'installer un jour, qui s'appelle Kyoko, qui est une jeune veuve, qui est un peu plus âgée que lui, qui est une jeune veuve qui a du mal à se remettre de la disparition de son époux. Et donc il va commencer à avoir un rapprochement entre les deux, mais bon, à la Rumiko Takahashi, c'est-à-dire avec plein de gags, plein de quiproquos, plein de situations un peu rocambolesques, super drôles. Et donc on essaie de développer ça avec une narration un peu du quotidien, mais avec ce fil rouge, avec cette romance entre les deux qui est vraiment très très drôle. Et du coup, j'ai quand même constaté des différences, que j'avais le souvenir du dessin animé. Et donc dans le Club Dorothée, forcément, c'est un récit assez adulte, c'est un seinen. Ils avaient pas mal censuré, ils avaient pas mal filtré. Donc là, je redécouvre complètement le truc avec pas mal le côté blague en dessous de la ceinture. C'est bien salace, assez drôle de ce côté-là. Et même le côté plus dramatique, assez profond, à la réflexion sur le deuil, sur le temps qui passe. Il y a tout un tas de nuances qui était peut-être dans le dessin animé en japonais, mais qui en français avait squeezé via le Club Dorothée. Et puis même les noms, parce que quand même les noms, c'était Juliette, Kyoko, c'était Juliette. Godai, je crois, il s'appelait Hugo. La pension, le manga, il s'appelle Maison Ikoku. Dans le dessin animé, ils avaient plus la pension des Mimosas. Donc c'était parce qu'à l'époque, je crois, les dessins animés, tout ce qui était contemporain, enfin qu'il y avait un cadre contemporain au Club Dorothée, il fallait absolument masquer que ça se passait au Japon. Donc on changeait tous les noms, on changeait toutes les rues, même les rituels un peu japonais, genre aller au temple au Nouvel An. Je sais plus comment ils avaient squeezé ça dans la traduction française.
J'ai souvenir d'un jeu vidéo qui se passait à Tokyo et ça commençait dans la version française Montreuil.
En tout cas, dans les dessins animés, ils faisaient ça aussi. Alors que paradoxalement, quand c'était un dessin animé un peu mythologique, genre Saint Seiya, Dragon Ball, ils gardaient les noms. Parce que c'était, de toute façon, c'était éloigné de notre réalité. Mais dès que c'était contemporain, il fallait surtout pas qu'on se doute que c'était japonais. Donc on changeait tout, Hugo, Juliette, tout ça. Donc là, voilà, je recommande. Vraiment, c'est super drôle. Moi, en ce moment, en lisant, je me tape des hontes dans le métro parce qu'il y a des gags. Elle a vraiment une science du gag, Rumiko Takahashi, qui c'est diabolique, quoi. T'es dans le métro, tu lis ça, tu te demandes, t'es obligé d'avoir un sursaut, t'es obligé de commencer à te mordre les joues parce que c'est. Et en plus, là, il y a un cadre réaliste parce qu'on connaît ce talent-là avec. Elle avait fait Ranma 1/2, qui est peut-être son manga le plus connu. Et là, mais il y avait des éléments fantastiques, il y avait aussi Lamu, enfin Yorutsei Yatsura, où il y avait des éléments surnaturels. Là, c'est vraiment un pur cadre réaliste, et donc on peut savourer d'autant plus cette science du gag et des émotions, quoi. Donc voilà, je recommande Maison Ikoku, Rumiko Takahashi. Il y a eu ces sortes, c'est réédité il y a 3-4 ans en édition perfecte chez Glegna, en 10 tomes, ça coûte pas si cher, 12 €. En fait, c'est l'équivalent de 2 tomes en un. Donc voilà. Lisez Maison Ikoku.
Très bien, bien. Merci beaucoup pour cette recommandation, Justin. Quant à moi-même.
Bravo Lila.
Lila.
Ouh. Alors, c'est rigolo parce que j'hésite entre deux recommandations qui commencent toutes les deux par la lettre K, ce qui est assez peu commun. Non, la première n'est pas vraiment une recommandation très très approfondie, mais j'avais quand même envie d'en parler très brièvement, parce que c'est un petit party game assez sympa qui est sorti là il y a peu de temps, qui est Kallax, un jeu dans lequel vous et vos amis allez collaborer pour monter des meubles. Voilà, de manière bien sûr totalement anarchique, avec des contrôles qui vous donnent envie de vous taper la tête contre les murs.
Avec un K comme Ikea. Donc.
Voilà, avec un K comme Ikea.
Mais le problème que Kallax, c'est des produits Ikea. Hein.
Oui, tout à fait. Voilà, pour passer un petit bon moment entre amis, moi j'ai eu la très bonne idée d'y jouer avec. Alors, parce que oui, en plus, vous avez des plans, donc vous donnez les instructions, vous dites toi, il faut que tu fasses ça, etc. Moi j'ai eu la très bonne idée d'y jouer avec mon copain Alexandre et ma collègue Alexandra, ce qui a garanti vraiment un chaos extrêmement douloureux. Mais voilà, ça, c'est un petit truc si vous voulez passer une soirée sympathique avec quelques amis. Ça coûte 10€ sur Steam. C'est fait par un studio montpelliérain qui s'appelle Unexpected Games et dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a été fondé par Zerator. Voilà, mais sinon ma reco un petit peu plus qualitative, non c'est méchant de dire qualitative par opposition à l'autre, mais en tout cas un petit peu plus artistique on va dire, c'est une série islandaise du nom de Katla. Je vais quand même juste revérifier parce qu'une fois sur deux je me plante, oui c'est bien Katla, du nom d'un volcan. Islandais. C'est une série donc que vous pouvez trouver sur Netflix et qui est un petit peu dans la veine de la série Les Revenants, avec une pointe de dark, je dirais. Le pitch de base, c'est que suite à l'éruption donc de ce volcan Katla, des doubles de gens se mettent à apparaître. C'est essentiellement des gens qui sont morts, mais pas que. Il y a des gens, de vrais gens, qui sont en vie, qui se mettent à apparaître à leur tour. Donc, autour de ça, naître toute une réflexion autour du deuil, mais aussi de l'identité, des choix qu'on a fait, mais beaucoup du deuil quand même, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui réapparaissent, alors que dans la vraie vie, ils ont disparu ou sont décédés depuis un certain temps. L'approche est assez intéressante justement parce que ça permet d'avoir une diversité d'approches. Le fait que certains de ces personnages soient encore en vie, le fait que certains de ces personnages, en fait, une personne, elle est toujours en vie, mais la version d'elle qui revient a 20 ans de moins. Donc ça confronte aussi un petit peu à ce qu'a été sa vie, à aussi ce qu'aurait pu être sa vie tout simplement 20 ans plus tard, du fait aussi de l'évolution de la société en fait, entre le moment où elle était jeune et ce moment où elle est à nouveau jeune. Voilà, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui vont explorer les rapports humains. Il y a un personnage, j'y pense quand même, si vous aimez bien la figure de l'enfant flippant, il y a un gamin vraiment flippant là-dedans, et voilà, avec ses parents qui donc entre-temps ont ce gamin qui était mort et puis qui revient à la vie, c'est par contre-temps avait divorcé, enfin voilà, vraiment pas mal de situations assez intéressantes à explorer. Je trouve qu'il y a un petit peu des longueurs sur la deuxième partie de la série, mais globalement ça reste très plaisant, et il faut quand même souligner que la photographie est vraiment magnifique, ça tire vraiment parti des paysages de l'Islande, ces grandes étendues avec ce volcan en plus en éruption, on voit les fumées s'élever, il y a les tempêtes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très beau comme cadre, mais au-delà du cadre lui-même, il y a vraiment un vrai travail sur l'image qui est fait, avec une qualité des cadres, colorimétrie... très sombre, ce qui ne plaira sans doute pas aux détracteurs de Dune. Donc nous aurons l'occasion de parler le mois prochain. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une série qui est vraiment intéressante. Si vous aimez les séries fantastiques, un petit peu psychologiques, Les Revenants, Dark, Zone Blanche, tout ça. Donc c'est disponible sur Netflix et c'est une série, donc Katla, de Balthazar Cormacour. Voilà, donc merci à vous tous pour votre présence d'abord et puis vos recommandations. Merci à nos auditeurs d'être au rendez-vous et on va tout de suite passer au cœur de l'émission. En commençant par une pastille donc sur notre... April Story, notre coup de projo. Alors annoncé il y a fort fort longtemps, mais ça y est, nous y arrivons enfin. Et puis voilà, quelques grosses ou moins grosses sorties du mois écoulé. Merci.
La troisième rangée, votre podcast mensuel des sorties cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager nos émissions.